Santé, Science et Développement, une émission de SciDev.net.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Acoussan. Au menu cette semaine, nous irons à la découverte d'une application pour favoriser le don de sang au Gabon. Nchina est une plateforme numérique conçue pour mettre en relation les donneurs de sang et les demandeurs. Au Cameroun, les impacts de l'exploitation artisanale de l'or sur la santé et la sécurité des artisans miniers ont été révélés par une étude commandée par l'ONG Forêts et Développement Rural. De nombreux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières semaines en Guinée, où l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réactivé sa stratégie de vaccination. Objectif, couvrir tout le pays. L'eau de la noix de coco est-elle bonne pour la santé humaine? Quelles sont ses vertus? Réponse dans la rubrique Kézako. Et puis la note de fin, ce sera comme d'habitude l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Au Gabon, une jeune développeuse web et stratège digitale a créé une application pour favoriser le don de sang. Cette plateforme numérique d'entraide baptisée Nchina est conçue pour mettre en relation les donneurs et les demandeurs de sang. Retrouvons à Libreville Sandrine Gaigne.
Nchina, qui veut dire sang en langue omiyenne au Gabon, ambitionne en effet de faire croître une communauté de donneurs volontaires et bénévoles accessibles gratuitement aux demandeurs de sang à tout moment, ce qui permettrait de résoudre les problèmes d'approvisionnement en poche de sang dans des banques de sang, dans un contexte où des gens meurent par manque de ce précieux liquide. Conçue par Alvin Yeno, une jeune développeuse web gabonaise, cette solution numérique est téléchargeable sur Google Play et App Store. Alvin Yeno explique comment ça fonctionne.
Nchina en fait permet d'alerter les donneurs en cas de besoin. Donc les donneurs qui sont préalablement inscrits reçoivent la notification au moment où on en recherche. Et donc eux, à ce moment, peuvent passer le test d'éligibilité pour savoir s'ils sont aptes à faire le don maintenant. Il faut aussi souligner que ce test d'éligibilité n'est que le premier parce que après c'est le centre qui va déterminer avec plus de détails si la personne est apte à donner.
Par ailleurs, Nchina se veut une plateforme de sensibilisation sur l'importance du don de sang pour sauver des vies. Une action nécessaire dans la mesure où au Gabon, les dons de sang ont considérablement diminué depuis la pandémie de la COVID-19. Et malgré la sensibilisation faite à travers cette application, plusieurs potentiels donneurs traînent encore le pas.
Les gens adhèrent généralement quand on va présenter le projet, les personnes sont toutes émues. Surtout que la plupart parmi ces personnes ont déjà vécu des cas similaires et donc se reconnaissent par rapport à ce projet. Maintenant, pour passer à l'action, ça reste encore un peu tabou, mais je pense qu'avec la communication, ça devrait pouvoir aller.
Pourtant, un engouement des populations aurait pu rapidement accroître l'offre pour une meilleure prise en charge des malades, des femmes enceintes, des accidentés, entre autres. Selon le docteur Olivier Pellegrin, directeur général du Centre national de transfusion sanguine, le Gabon prélève environ 23 000 poches de sang par an, ce qui est en deçà de la demande. Sandrine Gaigne, Libreville, pour Santé, Sciences et Développement.
Au Cameroun, l'exploitation artisanale de l'or a des impacts sur la santé et la sécurité des artisans miniers. C'est ce que révèle une étude commandée par l'ONG Forêts et Développement Rural. Ladite étude, qui a été restituée le 19 octobre dernier, interpelle les autorités camerounaises sur la nécessité de prendre des mesures afin de préserver la santé de centaines de personnes qui travaillent sur les sites miniers. Les précisions de Béatrice Cazé à Yaoundé.
L'étude intitulée « Évaluation des risques de l'exploitation artisanale de l'or sur la santé et la sécurité des artisans miniers » a été menée du 28 mai au 5 juin 2022 à Batori, Kété, Ngoura et Betareoya, quatre communes de la région de l'Est qui abritent l'essentiel des activités d'exploitation minière au Cameroun. Le docteur Ralph Obasse-Moussono, d'expression anglaise, est le principal auteur de cette étude.
L'objectif de cette étude, d'abord, c'est pour évaluer les risques d'exploitation artisanale minière de l'or sur la santé et la sécurité de cette population locale. On avait les objectifs spécifiques maintenant pour évaluer le taux d'exposition de mercure, pour évaluer aussi les causes de décès et les accidents dans les différents sites et pour évaluer les différentes maladies qui ont lieu à cette activité.
134 travailleurs spécialisés dans l'exploitation aurifère artisanale ont été interrogés au cours de cette étude. Selon les résultats obtenus, ces derniers sont victimes de nombreux problèmes de santé tels que le paludisme, les douleurs musculaires et squelettiques, les maladies diarrhéiques, les problèmes de vue, les maux de tête et la fatigue. L'analyse d'une soixantaine d'échantillons de cheveux a également permis d'identifier une concentration élevée de mercure utilisée pour extraire de l'or chez 71% des sujets testés. Pour Justin Chekoua, chef de projet à Foder, des actions doivent être prises pour préserver la santé des mineurs artisanaux.
La première chose qu'il faut faire, c'est de manière préventive. Davantage informer et sensibiliser les artisans sur les risques qu'ils encourent en utilisant le mercure. Et la deuxième chose, puisqu'il est difficile pour les artisans de ne pas utiliser le mercure, c'est de trouver des alternatives à l'utilisation de mercure. Et donc, il y a des technologies qui sont en train de faire au niveau international. Peut-être que le Cameroun, le gouvernement puisse voir comment importer, amener cette technologie ici pour que les artisans puissent s'approprier.
Cette étude a été réalisée dans le cadre de la deuxième phase du projet Mines, Environnement, Santé et Société, un projet mis en œuvre par Forêt et Développement Rural. Béatrice Kazé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
En Guinée, de nombreux cas de COVID-19 ont été enregistrés ces dernières semaines. Pour faire face à cette résurgence de la maladie, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réactivé sa stratégie de vaccination qui devrait couvrir l'ensemble du territoire guinéen. La correspondance de Samuel Dimbadiolamou à Conakry.
Après une période d'accalmie, plusieurs nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés dans les formations sanitaires du pays. Dr Souri Kondé, responsable des données et statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, fait le point de la situation épidémiologique à la date du 12 octobre 2022.
Dans le centre de traitement, il y a présentement 25 malades hospitalisés qui sont en train d'être pris en charge, dont 5 sont dans le service des soins intensifs. Donc les autres sont des personnes qui sont suivies à domicile par nos équipes mobiles.
De nouvelles infections qui ont causé la mort de plusieurs patients. Selon l'épidémiologiste, la plupart des personnes décédées étaient porteuses de facteurs de comorbidité.
Lorsqu'on regarde les 4 dernières semaines, on a reçu 6 décès. 6 décès survenus dans nos centres de traitement, malheureusement. Nous avons 3 personnes sur les 6 qui sont âgées de moins de 50 ans et les 3 autres sont âgées de plus de 50 ans. D'abord, aucun n'était vacciné contre la COVID-19. Tous présentaient d'autres maladies. Les maladies chroniques, donc l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH-Sida, la tuberculose.
La résurgence des cas de COVID-19 en Guinée fait suite à un relâchement quasi total dans le respect des mesures barrières.
Au début, on avait des barrages filtrants au niveau de la sortie, des sorties de Conakry. Tout ça, ça a été levé. Le port du masque a été levé par les autorités, dont le couvre-feu. Donc normalement, puisque les hôpitaux sont des lieux publics et de grande affluence, on devrait mettre un système de filtrage pour que les gens qui viennent présentent une preuve de la vaccination ou du dépistage pour ne pas qu'un malade arrive et qu'il contamine les autres et même le personnel.
Pour faire face à la situation, des stratégies de riposte ont été mises en place par l'Agence nationale de sécurité sanitaire.
Présentement, il y a la campagne de vaccination qu'on appelle le plan d'intensification. Ça se passe à Conakry, à Zérékoré. Il y a au moins une vingtaine d'équipes qui sont engagées à Conakry ici. Et nous avons fait la micro-planification pour les régions de Kindia et Boké. Nous allons lancer l'intensification là-bas d'ici la fin du mois d'octobre.
D'autres mesures telles que la présentation du carnet de vaccination pour tout voyageur sortant ou entrant en Guinée sont maintenues. Sur le plan de la vaccination, plus de 2 millions de personnes ont été entièrement vaccinées selon l'Organisation mondiale de la santé. Samuel Dimbadiolamou Conakry pour Santé, Sciences et Développement.
Kesako, qu'est-ce que c'est ? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
C'est du Cameroun que nous vient la question de cette semaine, je vous propose de l'écouter.
Bonjour, Saïdef Ponet, je suis Michael Karine, j'appelle depuis Yaoundé au Cameroun. J'ai quelques questions sur la consommation de la noix de coco, notamment de l'eau contenue dans cette noix. J'en consomme régulièrement parce que je la trouve sucrée. Mais maintenant, je voudrais savoir si elle est bonne pour ma santé. Quels sont ses bienfaits ? Merci.
Rendons-nous tout de suite à Yaoundé. Notre correspondante Mireille Siabgé est en ligne. Bonjour Mireille.
Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs.
Alors que retire au sujet de l'eau contenue dans la noix de coco ?
Effectivement, Sylvie, l'eau contenue dans la noix de coco, beaucoup la consomment très souvent par simple réflexe ou parce qu'elle a bon goût. Mais est-elle forcément bonne pour notre santé ? Pour répondre aux questions de notre auditrice, j'ai contacté le docteur Mbom Samuel. Il est médecin, chirurgien et conseiller en nutrition et diététique, basé à Douala.
L'eau de coco est une eau simplement qui est issue d'un fruit qu'on appelle la noix de coco. L'eau de coco est une substance riche en sels minéraux, riche en minéraux, je préfère, riche en vitamines, très pauvre en substances grasses, très pauvre en lipides et en acides gras.
Quels sont les principaux bienfaits que peut apporter ce liquide à notre santé?
Il y a beaucoup de bienfaits. Le premier bienfait, c'est que l'eau de coco prévient les maladies cardiovasculaires. L'eau de coco agit beaucoup sur le renouvellement des cellules. Il ralentit et empêche la survenue de la cellulite. Il favorise aussi la perte de poids dans une certaine mesure puisque la cellulite intervient dans la prise de poids. Il contribue à la destruction et la réduction du mauvais cholestérol qui est souvent responsable des maladies métaboliques pour ne citer que ces éléments-là. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits. S'il faut parler des bienfaits de l'eau de coco sur la santé, on passerait des heures là-dessus.
Peut-on penser que l'eau de coco soit sans danger pour tout le monde?
Je dirais non. Non, simplement parce que, comme j'ai dit tantôt, l'eau de coco est riche en minéraux. Ces minéraux que nous appelons en médecine les électrolytes, il y a du sodium, il y a du potassium, il y a du magnésium. Alors, un trop-plein de sodium dans l'organisme aura des effets secondaires. Un trop-plein de potassium dans l'organisme aura des effets secondaires principalement sur le cœur. Alors, ça veut simplement dire qu'il faut prendre ces substances avec beaucoup de modération. L'eau de coco doit être prise avec beaucoup de modération, surtout chez des personnes qui ont déjà des problèmes cardiovasculaires.
Qu'en est-il des enfants ?
L'eau de coco est bon pour les enfants. Il n'y a vraiment pas de souci pour les enfants. C'est intéressant parce que les enfants sont en pleine croissance. Ils ont besoin de tous ces minéraux que comportent ces substances. Non, les enfants n'ont vraiment pas de problème. C'est bien pour eux. Jusqu'à présent, il n'y a aucune contre-indication scientifiquement prouvée du lait de coco chez les enfants. Quand on boit l'eau de coco, en tout cas, c'est une question à laquelle on répondra en fonction de son contexte socio-économique et culturel, en fonction de ses attentes, en fonction de son état de santé. Mais de façon simple, un verre, un demi-verre d'eau de coco par jour, ou alors un verre trois fois par semaine, ce serait pas mauvais. Comme je dis, tout est fonction de votre état de santé, de votre environnement socio-économique et culturel.
Voilà Sylvie, c'était le docteur Mbom Samuel. Il est médecin chirurgien et conseiller en nutrition et diététique.
Merci Mireille, je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Quant à vous, chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée.
L'agenda.
C'est l'heure de noter les rendez-vous scientifiques de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile.
Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
Alors que retenir à l'agenda cette semaine ?
Du 25 au 27 octobre, Cotonou, la capitale économique du Bénin, abritera le colloque international Sciences ouvertes au Sud à l'occasion de la semaine internationale de l'Open Access. Le colloque aura pour thème « Gestion et ouverture des données de la recherche, panorama et perspectives en Afrique ». Cette rencontre qui s'inscrit dans la continuité du premier colloque Sciences ouvertes au Sud, organisé à Dakar en 2019, est co-organisée par l'IRD, le CIRAD et l'Académie des sciences, des arts et des lettres du Bénin, en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. Toujours à Cotonou, du 26 au 29 octobre, se tiendra le 11e congrès de la région Afrique de la Confédération mondiale des kinésithérapeutes. Notons aussi que le 29 octobre est la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral AVC. Écoutez Sylvie, chaque année, 15 millions de personnes font un accident vasculaire cérébral. 5 millions d'entre elles meurent et 5 millions souffrent d'une incapacité permanente. Aussi, l'objectif principal de cette journée est-il de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique. Voilà, ce sera tout pour cette semaine.
Merci Virgile. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.